Étienne Dao, ses chansons rythment nos mélancolies et parce qu'il sort une version augmentée de son dernier album Tirer la nuit sur les étoiles, une version augmentée de plusieurs titres inédits et parce qu'il entame et poursuit une tournée de concerts inédits, il nous a reçus il y a quelques jours dans les locaux de sa maison de disques Universal Music. À suivre donc, entamons notre week-end avec Étienne Dao.
À la frontière de nos interdits, interdits. Surfer sur une mer légère quand la nuit éclaire nos folies ordinaires. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Sur les étoiles.
Bonjour Étienne Dao.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer, commencer même par le début, nous raconter la signification de ce titre, Tirer la nuit sur les étoiles, d'où est-ce que ça vient ?
Ça vient d'un documentaire que j'ai vu sur Ava Gardner. Et dans ce documentaire, il y avait cette anecdote. Il racontait cette anecdote que quand elle a rencontré Frank Sinatra, avec cette passion folle, ils ont un petit peu picolé, ils sont partis dans le désert et ils ont tiré au revolver sur les étoiles. Et je trouvais que cette image était tellement cinématographique, je l'ai notée dans un coin de carnet. Et je me suis dit, il y a un moment, il y aura une musique qui va arriver, qui sera adéquate pour évoquer cette sensation de quand on est ébloui par quelqu'un, on a envie de faire des choses un peu folles, un peu exceptionnelles, et comme elle est tirée au revolver sur les étoiles.
Et dans cette chanson justement, vous écrivez « Rouler une nuit entière, porte du désert, à la frontière de nos interdits ». C'est ça aussi les histoires d'amour, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous tire à la frontière de nos interdits ?
Ça fait partie des grandes aventures humaines. C'est-à-dire que ça vous incite à sortir de vous-même, à devenir meilleur, à briller.
Forcément meilleur ?
A priori oui.
L'amour, c'est le fil rouge de cet album. L'ensemble des chansons en parle d'une façon différente, avec pour point d'orgue à chaque fois des rencontres. Qu'est-ce que vous vouliez raconter ? C'est les différentes facettes de l'amour ? C'est de l'amour dont vous avez été touché vous-même ?
J'ai pas beaucoup d'imagination, donc j'écris un petit peu sur ma vie personnelle. Et ça fait longtemps que j'avais pas fait un album qui parlait de la relation à deux. J'avais l'impression d'avoir fait le tour, et puis j'étais touché par autre chose. J'étais pas inspiré par cette relation fusionnelle. Et cet album raconte une rencontre en particulier. Au moment où on pense que, qu'on a déjà vécu pas mal de choses très riches et fortes, et que tout d'un coup, on est ébloui par quelqu'un qu'on n'attendait pas, et qui vous remue, qui vous bouleverse.
Vous dites ça, qu'on ne s'attend plus à cette rencontre, qu'on ne s'attend plus peut-être même à tomber amoureux. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'âge, dans le fond, pour tomber amoureux ? On tombe amoureux
non,
à n'importe
non,
quel
non.
âge ?
C'est son niveau d'exigence. Plus on prend de l'âge, plus on est exigeant, et plus ça raréfie les possibilités de s'engager ou d'être attrapé par quelqu'un. J'ai beaucoup parlé avec des gens qui sont plus âgés que moi, notamment avec Jeanne Moreau, lorsque j'ai enregistré Le Condamné à mort avec elle et qu'on est parti en tournée. On a vécu vraiment beaucoup ensemble, on a été très souvent ensemble. Et le thème principal du Condamné à mort, c'est aussi c'est le désir, bien sûr, hein, mais c'est la faculté d'être ébloui longtemps. Et avec Jeanne, qui était beaucoup plus âgée que moi, c'était comme c'est un sujet qui me préoccupe, le désir, quand ça s'arrête, qu'est-ce que ça devient, comment ça se transforme. C'était vraiment un sujet qui me taraudait. Et avec elle, vraiment, qui a été une amoureuse toute sa vie jusqu'au bout, c'est très rassurant, justement, de savoir que le cœur peut battre jusqu'au bout.
Il y a une chanson qui m'a beaucoup touché dans l'album qui s'intitule « Boyfriend », qui est une chanson à la lisière entre l'amour et l'amitié. C'est quoi pour vous le grand A ? C'est l'amour ou l'amitié ?
Alors l'idéal pour moi, c'est les deux, c'est l'amour-amitié.
C'est-à-dire ? Comment ça s'incarne ?
C'est-à-dire qu'on peut devenir le meilleur ami de la personne dont on est amoureux. Alors que souvent, c'est très dissocié. On a ses potes et on a quelqu'un avec qui on a cette relation un peu privilégiée, qui est ce que vous évoquiez tout à l'heure aussi, qui est faite de toutes les torsions et de tous les méandres de ces névroses qu'on partage à deux. Et ça peut faire des explosions. L'idéal, c'est l'amitié amoureuse. Ouais.
Je serai ton pote, ta dope, ta pharmacopée. Je serai le cachet qui fond sous la langue pour t'apaiser. Je serai tout près, gardant bien mes distances.
Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de cette chanson Boyfriend, qu'est-ce qu'elle raconte et même d'où elle vous est venue, comment elle a jailli?
Elle dit à l'autre, je serai ton ami, je serai ton épaule, je serai là quand il y aura des embrouilles. Enfin, c'est aussi une c'est aussi une autopub pour soi-même.
Il y a des gens aussi parfois qu'on est obligé d'aimer, qu'on se sent obligé d'aimer, c'est l'amour notamment intrafamilial, les parents, les frères, les sœurs. C'est l'amour presque en héritage, vous l'évoquez peut-être moins dans vos chansons, c'est parce que ça vous touche moins ou c'est parce qu'au fond, vous gardez encore cette pudeur de l'amour familial et filial?
Alors c'est vrai que je suis assez pudique, j'ai un peu du mal à parler de ça, donc là vraiment c'est le thème principal, je crois, de notre entretien. J'ai évoqué mes parents deux fois en fait. Une chanson s'appelle Boulevard des Capucines, où j'ai évoqué mon père, une relation qui est une relation, une non-relation en fait, plus exactement. Et puis une chanson qui s'appelle « De bien jolies flammes » sur un épisode en Algérie quand j'étais petit.
Vous êtes né en Algérie, on le rappelle.
Oui, et qui est un épisode un petit peu tragique. Et c'est vrai qu'autrement, je n'ai pas du tout évoqué l'amour filial. J'y pense beaucoup parce qu'en fait, j'ai perdu ma mère au printemps et je rêve d'elle toutes les nuits, bizarrement. C'est très étrange, en fait. Voilà.
Si on se parle ce matin aussi, c'est parce que vous avez retrouvé la scène, mais surtout les grandes, grandes salles. On vous savait habitué des salles dites de moyenne taille, Playel, l'Olympia. Là, vous renouez avec les Zéniths que vous connaissiez, que vous aviez fréquenté même plus avant, au début de votre carrière, Étienne Dao. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver ces espaces gigantesques et plus encore ces foules gigantesques?
Oui, c'est vrai que j'ai fait ces grandes salles pendant 20 ans et c'est vrai que j'en ai eu marre parce que j'avais envie d'un autre type de relation. Et puis, en fait, on se met toujours du côté du public. Et moi, je me dis toujours, bon, voilà, à l'Olympia, j'adore aller là-bas, même si c'est pas quelqu'un dont je suis dingue. C'est l'ensemble.
Vous l'aimez surtout comme membre du public, cette salle?
Oui, mais je trouve qu'elle est parfaite. Elle est parfaite, c'est vraiment le musical. C'est une fête d'aller à l'Olympia. Et puis, en fait, j'ai été challengé par mon tourneur, en fait. Il s'appelle Thierry Suc, qui m'a dit ce serait bien que tu reviennes dans des grandes salles. Et j'étais vraiment pas du tout chaud pour ça, quoi. J'avais pas envie, en fait. Et puis il m'a contaminé avec son envie. Et elle a grandi, elle a commencé à manger le cerveau. Et j'ai commencé à imaginer comment ça serait de revenir dans des grandes salles, voire des très grandes salles, comme l'Accor Arena. Et puis tout d'un coup, ça devient un challenge avec soi-même. Et ça devient autre chose, ça devient un autre type de show. Donc j'étais d'accord, mais pour faire un show qui soit spectaculaire visuellement. Et donc, après, il fallait la bonne rencontre. J'ai eu la chance d'avoir la rencontre avec Mathématiques, qui est un collectif assez exceptionnel et avec lesquels j'ai travaillé pendant presque 6 ou 7 mois à ce show, qui soit défilé aujourd'hui. Et là, vraiment, c'est un show pour les grands espaces, quoi.
Vous avez employé l'expression créer quelque chose de spectaculaire du point de vue visuel. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez décrire pour les auditeurs qui ne voient pas, les auditeurs qui ne vous voient pas, à quoi peut ressembler le spectacle? Qu'est-ce que c'est que ce spectacle et à quel point il est spectaculaire d'un point de vue visuel, justement?
Parce qu'il y a plein de tableaux qui sont très originaux, très lumineux. On projette sur une boîte, c'est un procédé qui est neuf, en fait. On projette sur une espèce de box, en fait. C'est comme une boîte de Pandore, en fait. Et sur tous les écrans qui nous entourent, c'est-à-dire un écran qui est derrière nous, deux écrans latéraux plus un écran au-dessus qui est un toit, ça fait vraiment une espèce de boîte sur laquelle on projette avec un nouveau système. C'est très lumineux. Et chaque chanson a donné lieu à des tableaux différents, à des visuels différents. C'est difficile de les décrire comme ça. C'est très coloré, c'est très pop. Voilà, c'est un show très pop. Après, il y a la peur d'être avalé justement par un show trop spectaculaire et d'être tout petit comme ça. Et en fait, tout va bien. J'ai mon espace.
Qu'est-ce que ça change d'être face à 20 000 personnes plutôt qu'à 5 000? Il y a vraiment peut-être les gens qui connaissent la scène, qui ont été sur scène et qui savent ce que c'est que d'être face à une foule, face à des fans parfois. Et puis ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon cas. Est-ce que ça change vraiment quelque chose d'être dans une salle immense, d'être dans un zénith plutôt qu'à l'Olympia?
Il y a une espèce de vague phénoménal dans des très grandes salles ou quand on fait des festivals, c'est pareil, d'avoir cette espèce d'énergie énorme qui vous submerge. Hein. C'est très fort, hein. C'est très beau.
Je vous ai entendu dire dans une interview, Étienne Dao, que longtemps vous aviez rêvé d'être invisible, notamment lorsque vous êtes rentré d'Algérie, vous souhaitiez être comme les autres, parmi les autres, mais invisible parmi les autres. Aujourd'hui, vous êtes sur scène. Qu'est-ce qui vous a fait passer de l'un à l'autre, de l'extrême invisibilité
à... C'est ça qui est fou. C'est vraiment qu'on choisit des métiers pour lesquels on n'est pas fait du tout à la base.
Vous n'êtes pas fait pour ça aujourd'hui? Vous n'êtes pas fait pour être chanteur?
Je me suis aperçu avec les années que j'étais fait pour ça. C'est une vocation. Hein. Mais c'est vrai que je me souviens quand j'étais étudiant, je faisais des détours énormes pour ne pas passer devant les terrasses de café, pour qu'on ne me voie pas. Ça allait aussi loin, enfin, je sais pas pourquoi, c'est comme une espèce d'autosuppression de soi, ou d'avoir envie de raser les murs, quoi. Et j'ai choisi un métier où tout d'un coup, on me voit.
Et est-ce qu'on y prend goût? Est-ce que vous avez pris goût au fait d'être vu?
D'être vu, d'être regardé, c'est pas pour ça que je le fais en fait, ça a jamais été mon obsession, vous avez dû le remarquer, hein. Je suis
ça
assez
se sent,
discret,
même lorsqu'on se parle,
médiatiquement,
là, ça se sent.
Ah bon, c'est vrai? Je sais pas comment répondre à ça. Je crois que, en fait, si c'est un goût qui est venu avec les années. Parce qu'en fait, c'est un métier qui s'apprend. Il n'y a pas de bouquin pour ça, quoi. Donc, on apprend à se comporter sur scène et à échanger, à être de plus en plus ouvert aux autres avec les années, avec l'exercice. C'est l'exercice qui fait ça. Je crois aussi, je reviens à cette tournée que j'ai fait avec Jeanne Moreau, où vraiment, c'était une tournée où je sortais vraiment de, pas de ma zone de confort, mais c'était un pas de côté par rapport à ce que je connaissais. À savoir d'être protégé par ses propres chansons, par les lumières, par tout ce qu'on crée visuellement. Voilà, une manière de rendre les choses les plus attrayantes possibles. Et là, c'était un spectacle où j'avais vraiment un spot blanc sur moi. Jeanne à côté de moi, lecture pour elle, chant pour moi, lecture aussi. Et là, j'ai appris être nu, en fait, devant les autres. D'abord, c'était un texte qui était très sexuel, qui est très fort à incarner. J'ai la sensation, après cette tournée, d'avoir lâché quelque chose. Et puis aussi d'être dans des lieux où j'étais peut-être pas le bienvenu. Le Festival d'Avignon, le Théâtre de l'Odéon, qui sont des choses très, comme ça, très fermées. Et quelqu'un qui vient de la pop, en général, c'est pas très bien vu, alors que moi j'adore les mélanges. Je pense que c'est de là que viennent les choses les plus belles, c'est des mélanges.
Et comment vous avez été reçu à Avignon?
Très bien.
À l'Odéon?
Très bien. Alors, je me souviens plus de son nom, mais avant de monter sur scène à Avignon, bon, il y a les trompettes et tout ça, c'est vraiment
C'est une autre forme de spectacle grandiose.
Oui, c'était le Palais des Papes, et il me prend par les bras comme ça, il m'attrape et puis il me dit, vous savez, les gens peuvent manifester très bruyamment s'ils sont hostiles.
Ouais, c'était un moyen de vous effrayer, de vous mettre en garde du moins.
Je trouvais ça absolument dégueulasse, vraiment. Mais ça m'a donné la niaque en fait. C'est-à-dire que toute personne qui essaie de mettre à terre, ça décuple.
Ça vous renforce.
Oui, ça décuple l'envie de réussir les choses. C'est un aiguillon, en fait. Je le remercie.
Dans sa maladresse. Tirer la nuit sur les étoiles, c'est le titre, Étienne Dao, de votre dernier album. Il est composé de 12 titres, justement. Vous en avez ajouté 16. Alors pourquoi en avoir ajouté 16? Pourquoi ne pas avoir proposé un autre album?
C'est pas mon idée. Hein. Au départ, les maisons de disques, maintenant, proposent toujours des albums Deluxe, qui s'appellent Deluxe avec des inédits. Quelques mois après la sortie, ça permet de faire vivre l'album plus longtemps. Moi, je suis un acheteur de disques, je déteste me faire niquer en achetant un disque 3 mois après avec genre 2 inédits. Enfin, pour moi, c'est du vol. Et je leur ai dit que j'étais OK si j'arrivais à trouver le nombre de titres suffisant. Pas du remplissage, mais quelque chose qui soit suffisamment opulent pour que ça ait du sens.
Pas seulement 2-3 titres en plus, mais voilà.
C'est ça. Et donc, il y avait des titres, parce que j'avais fait tout un projet avec le groupe Unloved. Donc, il y avait 5 ou 6 titres, dont une chanson de Noël. Il y avait des remixes qui n'avaient pas été faits à l'époque de la sortie du disque, évidemment. Parce que ce sont des choses qui se fabriquent après. Donc, tout additionné, ça faisait à peu près 16 titres en plus. Donc là, tout d'un coup, ça fait plus sens, quoi.
Vous avez le choix parmi ces 16 titres. Vous pouvez en faire écouter un à nos auditeurs. Lequel vous choisissez?
Peut-être Noël avec toi.
avec toi. Noël avec toi. Prions ma bonne étoile. Au fond du cœur, une balle. Tout là-bas, tes fenêtres, ta maison, dans les bois. Noël avec toi. Joyeux Noël, tout étincelle au ciel. Le vin doux sous le gui et loup brûlait encore d'un même feu. Et voir des larmes de joie dans tes yeux. Avec toi.
Pourquoi avoir choisi Étienne Dao, ce titre-là, Un Noël avec toi?
J'adore les albums de Noël, j'adore Noël. Et je suis tellement content d'avoir réussi à faire cette chanson. C'est un exercice très anglo-saxon, en fait. Et c'est très délicat. Et d'avoir réussi à faire un texte, je ne vais pas dire tordu, mais qui soit un peu hors clou, hors Noël, dans une chanson et dans une musique qui est très noëlisante, à base de beaucoup de clochettes et de chœurs. Non, vraiment, j'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Je trouve que la mélodie est très belle. Je l'ai faite avec Kifa Scientia et Jade Vincent de Unloved. Et vraiment, je suis hyper heureux d'avoir réussi à faire cette chanson avec eux.
Qu'est-ce que c'est pour vous une chanson de Noël, à part le folklore que vous décrivez, les clochettes, les sons singuliers? Il y a autre chose qui ajoute à ce style de musique, de
chanson? Il y a une vibe de joie très mélancolique, en fait. Parce que c'est toujours très à double tranchant, Noël. C'est-à-dire que c'est les lumières, retrouver les gens qu'on aime, et puis en même temps, les fêtes de famille, ça appuie toujours sur plein de trucs qui font genre...
qui vous angoissent.
On a envie de s'enfuir dès 11h du soir, après le dîner. C'est vraiment à deux lectures, cette période. Et en même temps, j'aime de plus en plus, en fait, cette période. Je la trouve esthétiquement belle, elle est tout le temps pleine de promesses, tout le temps.
Et puis ça nous permet de renouer avec le début de cet échange. Vous évoquiez Frank Sinatra. Lui aussi, elle fait des albums entiers de chansons de Noël.
Bien sûr, de
Noël. Est-ce que ça vous inspire?
Phil Spector, Sinatra, les Beach Boys, enfin Blondie, enfin pas d'album, mais une chanson. Il y a très peu d'exemples français, en fait. Il y a une chanson de Café de Phoenix que je trouve vachement bien, ils l'ont faite il y a 2 ans. Autrement, j'ai pas vraiment beaucoup d'exemples de chansons de Noël en français, si ce n'est... Je crois qu'il y a une chanson de Johnny que je connais, et puis une chanson de Dino Rossi. Vous en connaissez,
Oui. J'en connaissais pas, non, justement. C'est pour ça que je recommande l'écoute de votre titre, cette chanson de Noël. Merci beaucoup, Étienne Dao.
Merci à vous.
Joyeux Noël, tout étincelle.